Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, ça tient la route. Hey, on est rendu en février.
Édition yes. de début février, ouais.
Ben édition oui. de début février, Alain Mécana, salut.
Monsieur Charrette, bonjour.
Alors, comme à l'habitude, on va avoir dans quelques minutes nos actualités. Mm-hmm. En entrevue ce matin, un sujet intéressant parce que je m'en fais souvent parler par des gens qui sont pour, contre l'environnement, pour les voitures à essence, pour les voitures à batterie, pour le...
Je t'interromps un instant. Des gens qui sont contre l'environnement?
Oui. Ben. En fait, moi, je les appelle pas, je les appelle comme ça. Le terme se dit pas comme ça,
non,
mais,
oui.
mais le principe de base revient au même. On va avoir Benoît Couture en entrevue. Benoît Couture, c'est le président de Lithion. C'est quoi Lithion? En fait, c'est Recyclage Lithion. C'est une compagnie québécoise qui est ici à Montréal, qui a mis au point, exact, qui a mis au point un procédé pour recycler des batteries lithium-ion parce qu'on dit ça, oh, quand les batteries vont être finies, on jette ça dans l'environnement. Non.
Non.
Non, on les récupère. Il y a plusieurs façons de le faire et cette compagnie-là, elle, dit récupérer 95 % des constituants des batteries à un état de pureté qui est assez bonne pour refaire d'autres batteries.
Donc, lui, ah oui,
lui, il recycle littéralement le contenu des batteries. Là. Exactement. Donc, on va parler avec lui. Il y a plusieurs projets. Je vous en donne pas trop. On va en parler tantôt.
Ah, il y a beaucoup à dire.
SR Outil, tu vas nous essayer quoi, toi, cette semaine, mon cher Alain?
Écoute, j'essaye quelque chose. J'ai essayé le Cadillac Escalade.
Oh yes.
Et je vais vous le présenter sous l'angle de ce qui était à une autre époque des minivans, des mini-fourgonnettes de luxe que les gens achetaient. Okay. Les Chrysler Town & Country.
Tu vas nous présenter ça comme un station wagon, toi?
Je vais vous le définir un peu comme dans le bon vieux temps quand les gens s'achetaient une grosse fourgonnette parce que c'est un gros véhicule, c'est un gros SUV qui évidemment avec trois rangées de sièges je fais pour transporter beaucoup de gens et contrairement au Yukon chez GMC puis au Suburban chez Chevrolet, il est un peu joué, tu sais, c'est plus un ce qu'on appelle en anglais un people mover qu'un donc c'est un véhicule fait vraiment pour transporter des gens. Donc on va essayer de comparer ça si c'était mettons une fourgonnette d'il y a 25 ans.
D'accord. Puis moi je vais vous parler du premier VUS de la famille Genesis, le GV80
que j'ai eu
en essai la semaine passée. Franchement, fort intéressant. Donc, on disait nouvelle, Alain, oui. Cette semaine, on sait que t'es aussi un maniaque de tech. T'as une nouvelle qui te concernait dans les deux sens.
Oui.
Ford qui s'associe à Google. Parle-nous un peu de ça, puis qu'est-ce que ça va faire comme association, ça?
Écoute, à partir de 2023, Ford va remplacer dans ses véhicules neufs Ford et Lincoln, donc toute la gamme, le fameux système Sync dont on entend parler depuis tellement longtemps.
Oui.
Et qui est pas particulièrement bon non plus depuis pas mal longtemps.
En fait, ça a pris du temps avant qu'il soit bon. Honnêtement, en ce moment, il fait du bon travail.
Là, maintenant, oui, il était temps.
Je me rappelle, d'avoir été un lancement du premier système Sync. Là. Oh mon Dieu,
je me rappelle, ça fait quand même plusieurs années, mais d'avoir essayé un véhicule Ford ici, là, à Montréal, avec un système Sync, d'avoir éteint le moteur, d'avoir quitté la voiture et le système Sync refusait de s'éteindre tellement que ça a tué la batterie.
Ah oui, à ce point-là.
C'est à ce point-là que tellement c'était mal conçu. Bon, là, ils vont remplacer ça, donc, ce qui est une bonne affaire, par un système Android. Android, c'est le logiciel qui anime votre téléphone si vous n'avez pas un iPhone. En gros, là, on peut dire ça comme ça.
Ben oui, à peu près.
Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Ford. Définitivement, ça va être un meilleur système. Pour Google, ça permet d'entrer un peu plus à fond dans l'industrie automobile. La principale nouveauté pour nous, là, pour les gens qui allons acheter des véhicules, c'est que ce système-là va être connecté. C'est-à-dire qu'on pourra accéder au Play Store, qui est la boutique d'applications d'Android, à même l'écran du tableau de bord du véhicule pour installer des applications, les applications de son choix, que ce soit pour de la musique, de la navigation, pour
donc,
écouter d'excellentes balados. Je recommande celle de Benoît et Alain.
Exactement. Est-ce qu'il y aurait des visées mercantiles derrière ça, par hasard?
Ben, ça va être ouvert aux applications de développeurs tiers, donc des gens qui font des applications à l'externe. Évidemment, l'idée, c'est, à l'arrière de ça, de récolter des données d'utilisation des gens qui sont en voiture pour offrir des services sur mesure par la suite qui seront vendus. bien sûr, et qui pourront, parce que le marché est là, on en a déjà parlé avec BlackBerry et Amazon il y a quelques
semaines. On est en plein développement de ça, là.
Ça, c'est la prochaine grosse affaire dans l'automobile, c'est qu'on va pouvoir acheter des affaires sur son tableau de bord, mais pas juste des applications sur son tableau de bord, mais faire, tu sais, payer pour l'essence automatiquement, se rendre au magasin, acheter à manger, puis payer à travers ça, c'est déjà en essai chez GM.
T'arrives là-bas, c'est payé, tu pars avec, merci,
exactement.
Bonsoir.
Et là, Ford et Google s'associent. C'est une entente de 6 ans, donc de 2023 à 2029, pour développer ça. Ça va un petit peu plus loin chez Ford, en fait, parce que il va y avoir une intégration de l'intelligence artificielle mise au point par Google dans les usines d'assemblage de Ford pour les véhicules et les composants.
Ah oui, quand même.
C'est quand même assez poussé. L'idée, c'est de pouvoir offrir, par exemple, à ses clients de l'information en temps réel sur où est rendue la pièce de remplacement de ton véhicule qui est au garage. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de bâtir une certaine connaissance assez particulière de chacun des utilisateurs des clients de produits Ford pour ensuite pouvoir les diriger vers un site web où on leur proposerait un véhicule neuf à acheter en grande partie en ligne basé sur les goûts et préférences, donc déjà préconfiguré pour satisfaire le client en question pour que quand il arrive à la fin de son bail de location ou qu'il veut, tu sais, qu'il soit rendu à un moment donné où il veut changer de véhicule.
Il va falloir aller déménager dans le fond d'un bois. Ça va
ben là, écoute.
Parce que.
Fait que ça va loin.
Ça va très loin.
C'est ce qui est intéressant à cette entente-là, c'est cette deuxième portion de l'entente où justement on va pousser ça jusqu'en mode commerce électronique pour acheter des véhicules.
Ça va littéralement être du cas par cas à un moment donné. Là, on va être capable de cibler le client avec ses besoins.
Mais ça le dit, et c'est ça qui est cocasse, c'est que quand ils en parlaient, Ford, les gens de Ford et Google, plus tôt cette semaine pour nous le présenter, un élément qui est revenu, c'est que ça va être Android sur votre tableau de bord, mais il va quand même pouvoir fonctionner avec CarPlay. Donc, on va brancher son iPhone et on va quand même avoir l'interface d'Apple par-dessus. Donc, c'est un drôle de petit monde qui se dessine par-dessus.
On ne veut pas laisser personne de côté.
Ben, je pense qu'Apple a un certain aura aussi. Là,
oui, absolument. Deux nouveaux modèles chez Nissan qu'on peut mentionner parce qu'on était sous embargo. L'embargo a été levé. Donc, nouveau Frontier pour 2022. Vous allez me dire, hein, un Frontier?
Ah ben.
Écoute, 2005. Je suis allé vérifier parce que je me rappelais même pas la dernière fois que ce modèle-là avait changé. 2005. Ça fait 16 ans que ce modèle-là est à peu près le même. Là, on a changé de modèle pour 2022. Bon, attention, changé pas au complet. On a toujours ce que j'appelle la plateforme caissonnée.
C'est pas échelle, c'est
pas... Oui, c'est ça. Une plateforme séparée de camions parce qu'on veut garder le côté robuste. Bon, le moteur 4 litres a pris le bord.
Ben, il y a beaucoup de choses à améliorer sur ce camion-là.
Ben, d'abord, ça boit comme un V8. Là.
Exact,
au départ, là, c'est du 14-15 litres au 100 si vous êtes vide. Si vous chargez, on rendit à 18 et plus. Là, on va avoir un 3.8 litres, mais pardon, qui fait 310 chevaux au lieu des 261 du moteur qu'on a en ce moment. Donc, plus de puissance. En fait, Nissan annonce fièrement que c'est le moteur le plus puissant dans la catégorie des intermédiaires.
Bon.
Alors, donc, il va avoir une bonne puissance. Il va avoir aussi une nouvelle boîte automatique à 9 rapports. Ça aussi, ça va faire beaucoup de bien.
Parce que c'est 2021.
C'est pas compliqué. En dedans, on a tout recommencé, là. Voir un écran moderne, plus de technologie, plus de sécurité. Bon, je vais passer outre tous les détails, mais c'est un modèle qui arrive cet été, en fait, c'est drôle parce qu'on garde le Frontier puis on enlève le Titan.
Ouais, mais ça reste un intermédiaire relativement costaud.
Ça reste un intermédiaire assez costaud et je pense que il y a une meilleure clientèle du côté de chez Nissan pour ce véhicule-là que pour le Titan qui est littéralement enterré par les Américains, là.
Ouais.
Alors que le Frontier va réussir à tenir tête. On va avoir, bon, des versions SSV Pro 4X dans des versions King Cab et Crew Cab, des boîtes de 5 et 6 pieds. Donc ça change pas beaucoup. Et même si on a la même plateforme, on donne quelques pouces de plus là qu'on va chercher surtout à la partie avant du véhicule. Donc il y a un nez plus proéminent que l'ancien modèle. Puis l'autre modèle qu'on a refait aussi complètement cette année, c'est le Pathfinder.
Oui, c'est vrai.
Pathfinder là, ça fait ça aussi, ça fait un bon bout de temps. Et là, on est revenu, je dirais, un peu aux origines du modèle. C'est-à-dire que le Pathfinder, quand c'est en 2001, les premiers Pathfinder, c'était des véhicules qui étaient en fait des
VUS. On appelait des trucks à l'époque.
Définitivement
des
4x4.
Oui, c'est ça.
Et tranquillement, ce véhicule-là s'est embourgeoisé, est devenu une alternative aux fourgonnettes.
Ben, la dernière génération, c'était clairement une fourgonnette sans les portes coulissantes. Là.
Exact. Je dis 2001, je me trompe, ça fait 35 ans qu'il est là. Là. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2001. Ça fait 35 ans que le Pathfinder existe. Et là, on est revenu À, je dirais, en partie aux origines, avec un modèle qui est plus carré, qui est mieux conçu. Il va lui aussi avoir un moteur 3.5 litres qui va faire 284 chevaux, 259 livres-pieds de couple.
C'est le fameux V6 de Nissan, non?
Et il y a une boîte à 9 vitesses qui va remplacer la CVT. On est-tu content?
Tabarnouche.
Toi, t'es content.
Ah non, non, mais moi, là, hey, moi, j'ai lu ça et j'ai dit yes, yes. Alors ça, c'est intéressant. Et on va encore être capable de remorquer 6000 livres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient le Pathfinder pour la capacité à remorquer. Parce qu'on peut amener bon la roulotte, les motoneiges, les VTT, nommez-les. À 6000 livres, on est capable de traîner pas mal. Et ça aussi, on a recommencé complètement dedans. Pour tous les détails, je vous invite à aller voir annuelauto.ca. Parce que j'ai fait deux petites rubriques avec photos, vidéos, tout le patatlan.
Voilà, ben oui.
Vous allez voir tout ça. Et tantôt, tu parlais de Ford. Je veux pas oublier qu'on a présenté un nouveau Ford Raptor 2021. Et
là... F-150 sur les amphétamines, sur les stéroïdes, sur toutes sortes de drogues comme ça.
Et c'est drôle parce que au début de la semaine, on a parlé du Raptor avec le 6 cylindres, l'EcoBoost. Puis là, on s'est dit, OK, il y a TRX chez Ram qui a 700 chevaux et plus. On sera pas là avec un 6. Et le lendemain, Ford a dit, ah, mais attendez, il va y avoir un Raptor R.
Surprise. Ah, bon.
En 2022. Avec un V8. Mais là, on a refusé de parler lequel V8, de quoi ça va avoir l'air. Mais je te gage un petit 2 qui va avoir au moins 10-12 chevaux de plus que le TRX chez Ram. Ça serait surprenant qu'il y en ait moins.
Raptor R. Ça se dirait pas facilement.
R ou A hier, parce que vous allez toujours être
dans
en
les
vol
airs,
avec ça. Mais ça arrive. En fait, le Raptor avec le 6 cylindres arrive cet été. Mais le Raptor R va arriver, lui, en 2022. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Mais moi, je mets un petit 2 sur le moteur qu'on retrouve probablement dans le ce qu'on appelle le Predator, là, qui est le moteur de 760 chevaux, 5,2 litres qu'il y a dans le Mustang.
Ça se peut.
Shelby GT500, là. Me semble que ça fait de l'allure, ça. Mais là, il va falloir renforcer le châssis parce que c'est puissant sur un petit tas, ça, monsieur.
Ben, c'est ce que le Raptor a toujours voulu faire. Et s'il ajoute une décision encore plus démesurée.
Voilà. Alors, on devrait être à peu près dans les bonnes mesures avec ça. Donc, ça fait le tour de nos petites nouvelles. Toi, t'en avais-tu une autre ou
Ben, j'avais une nouvelle un peu triste ou un peu plate ou un peu négative, en fait. C'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui fait le bilan sur la popularité des VUS dans le monde.
Oui.
Parce que, écoute, il s'en vend plus que des voitures, puis c'est pas un phénomène seulement canadien.
Non, c'est partout.
C'est mondial.
De toute façon, les compagnies automobiles ont de moins en moins d'autos à vendre.
Exact.
Fait qu'on achète quoi? Un VUS?
Puis
hein?
C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus qu'on en achète plus, ou est-ce parce qu'on en achète qu'il y en a plus? Mais en tout cas, il y a plus de berlines. Et l'achat de VUS fait qu'évidemment, le parc automobile mondial consomme davantage et pollue plus aussi.
Exact.
Et malgré tous les efforts que tout le monde fait pour réduire les émissions polluantes du secteur du transport, l'Agence donc internationale de l'énergie prédit qu'en 2040, au rythme où ça va, il faudrait qu'il y ait sur la route l'équivalent de 150 millions de véhicules électriques pour compenser les émissions polluantes ajoutées par les VUS qui vont être sur la route.
C'est ça.
Donc, on n'est pas sorti de cette auberge-là d'objectifs, parce qu'évidemment, tout le monde veut être carboneutre en 2040. Et pendant ce temps-là, ben, on se rend compte que c'est le contraire qui risque de se produire. Donc, c'est ça.
Eh bien oui. Alors nous, on prend une petite pause et ensuite, on revient avec Benoît Couture de chez Lithion pour notre entrevue de la semaine.
Vous écoutez Balado du samedi, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Avant de poursuivre plus loin, je veux vous dire que le balado « Ça tient la route » peut être écouté sur différentes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple, Google, le site du 98.5fm.ca, annuelauto.ca. Je mets sur le site à chaque semaine, lorsqu'il apparaît sur des autres plateformes, l'émission sur annuelauto.ca. Vous allez l'écouter là. Donc, c'est en général le vendredi matin. Et je vous rappelle qu'on est en onde le samedi à 15h pour l'émission en direct à la radio. Alors, vous pouvez nous écouter. Et notre entrevue de cette semaine, Alain, je pense que ça va intéresser bien du monde.
Absolument. Moi,
parce
ça m'intéresse,
que,
en tout cas.
Ben, on le sait, on va de plus en plus dans le monde des véhicules électriques. On va multiplier. On dit qu'en 2020, on a vendu 1 million de véhicules électriques en Europe. Mm-hmm. On a atteint le million de véhicules électriques vendus.
On pratiquement la moitié en Norvège, je pense.
Possiblement. Et on doit aussi penser à la vie, après la vie, hein, de ces véhicules-là. Une fois, on fait quoi avec une batterie? Et là, on entend plein de choses et on lit plein de choses qui ne tiennent pas la route. Parce que l'émission, contrairement à notre balado. Qu'est-ce qu'on fait avec les batteries? Ben, on va répondre en grande partie à ces questions-là cette semaine avec Benoît Couture, qui est président de Recyclage Lithion. Monsieur Couture, bonjour.
Bonjour, Monsieur Charrette.
Bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps pour nous parler un peu de ça. Lithion, en fait, Recyclage Lithion, parlez-nous d'abord de la compagnie. Ça fait combien de temps que ça existe? Une compagnie d'ici, là, très québécoise, là.
Ah, tout à fait, oui. Recyclage Lithion, on l'a fondé avec sa compagnie sœur qui s'appelle Seneca Expert Conseil. Chez Seneca, notre métier depuis 24 ans, c'est de développer des procédés industriels et puis construire des usines, puis les rendre commerciales.
Okay.
Puis on avait travaillé beaucoup sur les différents produits de grade batterie pour approvisionner la chaîne d'approvisionnement de fabrication des batteries lithium-ion. Là, on voyait la croissance de cette industrie-là qui prenait son envol. Puis là, on se disait, mais c'est merveilleux, c'est le fun qu'on soit impliqué là-dedans. On a fait du lithium, on a fait du graphite, on a fait du graphène, on a fait plein de procédés chez Seneca qui étaient vraiment porteurs. Puis on voyait venir que le besoin de recyclage allait exister après ça. Il faut penser au cycle de vie quand on met un produit en marché.
Hein? Ben oui, c'est clair.
Il faut penser plus large. Hein? Puis on était surpris, aucun de nos clients venait nous voir et nous dire « Hey les gars, on se met au travail et on trouve une solution durable. » Puis on a pris la décision de le faire nous-mêmes. Alors c'est l'équipe de Seneca, on a dit que c'était la première fois qu'on développait un procédé pour nous, pas pour un client externe.
Okay.
Puis on s'est mis au travail en 2017. Et puis on a commencé par se demander c'est quoi la solution que la société a besoin pour supporter ses efforts pour décarboner. On rêverait d'avoir. Ah. Moi, je veux m'acheter un char électrique, là.
On vous a perdu un petit bout. Pour décarboniser la planète, je pense que c'est ça que vous vouliez dire, là.
Oui, ben okay. Je sais plus si on dit décarboner ou décarboniser. J'entends les deux.
Les deux sont bons.
Je pense que les deux sont utilisables.
OK. Ben, si je lis d'un à l'autre, personne va me taper ses doigts.
Non, non.
Alors, ouais, c'est ça. Si ça a coupé... OK, mais ce que j'expliquais, c'est... On s'est dit, c'est quoi la solution que moi, là, comme consommateur, comme membre de la société, c'est quoi la solution que je sens que j'ai besoin pour supporter mes efforts si je choisis d'électrifier mes transports? Puis, on a conçu cette solution-là, on a regardé ce qui existait, puis on a trouvé ce qui avait besoin d'être développé, puis on a tout développé, la solution qui sert bien la société.
Okay.
Puis, en comparaison avec ce qui existe actuellement, bien, ça présente beaucoup d'avantages. Fait que là, on a eu des résultats fantastiques, puis on a décidé de fonder Lithion, qui est une société sœur, puis ça, c'est depuis 2018. Et puis, on a bâti notre première usine, puis là, on développe ça.
Là, c'est l'étape importante. Là, vous avez une usine qui est une usine pilote. On l'appelle comme ça, je pense, encore. Mais vous avez des projets d'expansion. Mais dans un premier temps, moi, j'aimerais ça savoir, c'est qui le client de Recyclage Lithion? Qui va chez vous porter des batteries? Puis expliquez-moi le procédé. Qu'est-ce que vous faites avec les batteries quand ça arrive chez vous?
OK. Bon, c'est une question super intéressante. Alors, le client de Recyclage Lithion actuellement, ce sont principalement les OEM, les manufacturiers automobiles.
Les constructeurs automobiles.
Oui, parce que eux ont besoin de voir venir une solution durable pour supporter la mise en marché de leurs produits. Ils sont en train d'investir énormément pour développer plein de nouvelles voitures.
Ah, ils manquent pas d'argent, ça, c'est clair.
Ah non, ils en ont plus que moi.
Est-ce que quand ils annoncent qui vont créer des usines de recyclage de batteries. Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils font des ententes avec des partenaires comme vous, essentiellement, c'est ça que ça veut dire?
Oui. OK. Tout à fait. Il y en a qui développent leur propre technologie, puis il y en a qui font des ententes avec des entreprises comme la mienne.
OK. Donc, alors, vous pouvez faire partie d'une solution OEM. C'est-à-dire qu'une compagnie comme GM ou Toyota pourrait vous appeler pour dire, bon, ben moi, là, les batteries de mes véhicules électriques, quand ils arrivent en fin de vie, j'envoie ça chez vous.
Exactement.
OK, parfait.
On fait partie de la solution pour qu'on structure le marché puis qu'on s'assure que il n'y a pas de batteries qui vont partir dans la nature, mais les batteries, ils ne partent pas dans la nature. Il y a déjà des solutions de recyclage.
Ben oui, depuis plusieurs années.
Je suis content que quelqu'un qui travaille dedans nous le dise. Avez-vous bien compris, tout le monde? Là? Les batteries ne s'en vont pas dans la nature.
Non, non. Hey, c'est pas une batterie de cellulaire, là. C'est le fond de l'auto au complet, là. C'est une grosse batterie.
C'est une grosse batterie, puis il y a une valeur aussi, là. En dollars, ça coûte quand même assez cher, là, tout ça, là.
Oui, il y a une valeur, puis il peut y avoir une seconde vie si la batterie a encore des capacités. Seconde vie, c'est extrêmement intéressant, mais faut penser là, tu sais, que c'est une solution temporaire à un problème permanent. Hein?
Exact.
Ben, à un moment donné, il va falloir les recycler pareil.
C'est ça, parce que ce qu'on a vu, en fait, ce que j'ai lu, moi, cette semaine, Nissan nous a envoyé un communiqué comme quoi, au Japon, entre autres, on a une usine qui donne justement une seconde vie, parce qu'on dit que souvent, dans les batteries, il reste jusqu'à 60% d'efficacité. Donc, on peut réutiliser ça. On les prend comme des batteries, des génératrices fixes pour des parcs d'éoliennes ou pour des piles photovoltaïques, des piles solaires.
Dans des systèmes critiques. Juste ici, à la place Bonaventure, il y avait des produits, des vieilles batteries recyclées à l'essai dans le sous-sol de la place Bonaventure il y a une dizaine d'années. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais effectivement, au bout de la vie utile, il faut les recycler, il faut les décomposer. C'est ce que vous faites.
Alors, votre tâche, c'est ça, c'est de recycler. Donc, expliquez-nous le processus, parce que vous avez aussi un processus assez spécial qui permet de recycler jusqu'à 95% des composants de la batterie. Là.
Oui, et c'est ça qui est fantastique. Non seulement 95%, mais surtout, on fabrique des matériaux de grade batterie qui réintroduisent la chaîne d'approvisionnement pour nous permettre de faire de nouvelles batteries, des vraies batteries vertes qui vont contenir des éléments recyclés, qui vont avoir exactement les mêmes performances que la batterie qui est faite avec des matériaux vierges.
Donc, à la grande différence que là, on n'aura pas à aller dans les mines pour chercher du lithium et des choses comme ça, là. Vous l'avez recyclé, donc l'empreinte carbone est nulle ou à peu près, là.
Est presque nul, est vraiment diminué. Puis, mais pour soutenir la croissance, il va falloir faire des nouvelles mines quand même. Hein, les projets de mines, on peut pas dire, on les arrête toutes, on n'aura pas de besoin. Parce que, tu sais, la batterie a une durée de vie de 12 ans, à peu près.
Puis
peut-être
le marché,
qu'on va l'amener à 15 ans.
Exact.
Bon, mais le marché est en croissance, il va falloir alimenter cette croissance-là, puis ça sera pas avec les batteries qu'on va avoir dans 10-15 ans qu'on va pouvoir le faire, c'est avec des mines qu'on va partir aujourd'hui.
Exact.
Alors, les prochaines mines, il faut les faire. Mais quand on a extrait cette matière-là de la terre, ben, il faut avoir du respect pour cette matière-là, puis c'est ça le développement durable. C'est de dire, bon, on a eu un impact environnemental pour aller la chercher. Maintenant qu'on l'a, on va la respecter, puis on va s'assurer qu'on va la ramener dans la chaîne d'approvisionnement pour baisser l'impact à long terme.
Là,
c'est ça,
exact.
Le plus beau de l'économie circulaire, c'est là que notre technologie s'inscrit, puis elle vient permettre de créer l'économie circulaire alentour de la batterie.
Là, en ce moment, vous avez une usine qui a une capacité de 200 tonnes métriques par an. Vous voulez prendre de l'expansion, vous voulez aller dans d'autres usines. Parlez-nous un peu de vos plans, puis mettons les 5 prochaines années, là, on se situe où?
Vous pouvez aussi nous expliquer 200 000 tonnes métriques, c'est combien de batteries, ça?
Pas 200 000
non, 200 tonnes.
Autres, c'est 200 tonnes.
Ah, OK, excusez-moi.
Ouais, 200 tonnes de batteries, ça dépend des batteries, mais on peut mettre une moyenne, pour une voiture 100% électrique, on peut mettre une moyenne d'à peu près 250 kilos.
Okay.
Par batterie, 4 batteries la tonne.
Mm-hmm.
Alors, on peut dire à peu près 800 voitures. En réalité, il y a aussi des voitures hybrides qui ont des plus petites
qui ont des plus petites batteries, ouais.
C'est ça, qui vont être dans les 50 à 100 kilos. Alors, ça dépend de la voiture, mais en gros, là, quand on regarde ça comme ça, c'est à peu près à grosseur. Mais l'usine qu'on a actuellement, elle ne sert pas à servir les besoins du marché, à terminer le développement de notre procédé, okay, et à établir les relations avec nos clients.
Mm-hmm. Oh, ouais, donc, c'est une usine pilote, on peut l'appeler comme ça. OK.
Exactement. C'est une usine pilote, puis nous autres, on veut pas que le monde vienne nous porter leur batterie à la porte, là. On n'est pas organisé pour les recevoir, puis on n'est pas une opération commerciale.
Okay.
On est une opération pour terminer le développement, puis savoir exactement ce qu'on va construire. Puis là, la prochaine phase, c'est la première usine commerciale. Dans notre jargon, un peu anglicisé, on les appelle les usines first gen, usines de première génération. Ouais. L'usine de première génération, c'est la première usine commerciale qui utilise une innovation technologique comme celle qu'on amène au marché. Puis, elle va servir les besoins naissants du recyclage des batteries pour le Québec et le nord-est de l'Amérique du Nord.
Okay.
Et puis, surtout, ce qui va alimenter notre première usine, c'est les rebuts de production. Ça, c'est important de comprendre doit se mettre en marche rapidement. Parce que on a tous entendu parler que les premières Gigafactory de Tesla avaient des taux de rejet assez importants. Mm-hmm. Il y avait un pourcentage important des batteries qui rencontrent pas les spécifications pour assurer la performance de la voiture électrique. Alors, c'est des rebuts de production, c'est des rejets. Puis, on doit faire quelque chose avec ça. Nous, on est capable de les recycler et puis de redonner la matière première à l'usine pour qu'ils fassent des batteries. Alors, ça permet de baisser le coût de revient de la batterie et puis ça baisse l'empreinte environnementale de l'ensemble de l'opération parce que on utilise moins de matières premières, puis on envoie beaucoup moins de choses. La solution actuelle, c'est principalement de la pyrométallurgie. On les brûle pour récupérer juste le cobalt puis le nickel. Les autres, ils vont chercher 40%, 50% de ce qu'il y a dans la batterie. Nous, la technologie qu'on a développée, on va chercher 95 parce qu'on ne les brûle pas. Nous, on fait de l'hydrométallurgie, on dissout tout dans un acide, puis on va aller extraire et purifier les matériaux.
Okay.
Alors, l'industrie qui est en train de se créer pour fabriquer des batteries génère des rejets, puis eux autres, c'est pas dans 12-15 ans, là. C'est aussi en opération.
Ben oui, c'est là.
Ça qu'on va recycler au début.
Okay.
La majorité des choses qu'on va recycler au début, ça va être ces rejets-là, puis on va pouvoir alimenter la chaîne d'approvisionnement avec des matériaux recyclés. Alors, très rapidement, on va avoir un impact positif sur l'empreinte environnementale de la fabrication des véhicules électriques.
Mais là, je me pose la question, oui. M. Couture, est-ce que en chemin, on parlait des besoins de l'Amérique du Nord, mais il va y avoir des besoins en Europe, il va y avoir des besoins en Asie. Est-ce qu'on a l'intention d'aller s'implanter là-bas aussi?
C'est sûr. C'est sûr.
Okay.
Notre terrain jeu, c'est le monde, c'est la Terre.
OK, parce que
c'est un marché mondial.
Je pense que votre système d'hydrométallurgie est unique à ce que vous faites. Il n'y a personne d'autre qui a la même méthode, je pense.
La même méthode, non. Il y en a d'autres qui travaillent à développer des procédés hydrométallurgiques parce que c'est clair pour tout le monde que c'est le procédé de l'avenir.
C'est le plus efficace, oui.
Mais c'est le plus efficace. Mais c'est nous qui avons le plus d'avance, selon nous, parce qu'on a déjà construit notre usine pilote puis on l'opère depuis un an. Alors, on a déjà acquéri beaucoup de connaissances, on a fait déjà des l'optimisation de notre procédé. On a déjà établi des relations avec les OEM et les fabricants de matériaux de batterie. Alors, on a une belle avance. Est-ce que d'autres vont réussir un jour à développer une technologie semblable? Très certainement. Est-ce qu'ils auront les mêmes performances que nous? Ben, je leur souhaite bonne chance.
Gardez-vous un avantage quand même, ben oui.
Oui, on se garde une petite
si on regarde les projets qui sont en ce moment, nos gros compétiteurs là, mondiaux sont principalement en Asie puis en Europe.
Okay.
Les projets d'Europe, en ce moment, commencent à faire l'ingénierie pour construire leurs usines pilotes de capacité semblable à la nôtre.
Okay.
La nôtre est finie depuis plus d'un an, puis on l'a
donc vous avez pour le moment une bonne longueur d'avance. Fait qu'on on peut claironner haut et fort qu'il y a une industrie québécoise qui veut s'implanter dans le recyclage mondial des batteries, là.
Tout à fait. Notre industrie, elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie du gouvernement provincial de créer la filière des batteries lithium-ion au Québec.
Oui, puis le Québec est un endroit reconnu mondialement dans tout ce qui est batterie, électricité et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un rayonnement qui est intéressant aussi, là.
Oui, tout à fait. C'est, moi, je pense que c'est un des projets de société les plus stimulants qu'on a eu depuis pas mal longtemps. Après, là, la création d'hydroélectricité, puis la création d'Hydro-Québec, puis tout ça, comme projet de société, là, on est en train de se positionner comme un joueur clé dans l'ensemble de la gestion de l'énergie renouvelable, qui est le défi principal pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Hein, partout sur la Terre, on va installer des éoliennes, des panneaux solaires, on veut utiliser des véhicules électriques.
Exact. Puis le projet du carbone neutre est important pour beaucoup d'industries. On réalise qu'il ne faut pas juste penser aux véhicules et aux produits pendant de son vivant, mais aussi une fois qu'il n'est plus sur la route ou qu'il n'est plus en marché, là, c'est important aussi.
Tout à fait. Et les manufacturiers automobiles annoncent qu'ils veulent proposer au marché le véhicule carboneux. Ça veut dire qu'ils commencent à regarder avec attention l'empreinte carbone de toutes les étapes de fabrication de leur véhicule
avant qu'ils mettent en marché. GM a déjà annoncé 2040 comme année où on va être carboneutre. Alors, il y a déjà des dates qui sont avancées par plusieurs constructeurs. Ben, écoutez, M. Couture, il nous reste à vous souhaiter la meilleure des chances. Merci, c'était très intéressant. Puis on va suivre Recyclage Lithium de près.
Ben, merci beaucoup.
Merci
de nous avoir donné l'occasion de faire comprendre aux gens que...
C'est un dossier qu'on va suivre.
Ils vont recycler les batteries.
C'est une bonne nouvelle.
Un grand merci. Alors voilà, c'est monsieur Benoît Couture qui est président de Recyclage Lithium. C'est une compagnie québécoise qui a une longueur d'avance à l'échelle mondiale sur le recyclage des batteries par une méthode d'hydrométallurgie qui est pour le moment unique. Alors on leur souhaite la meilleure des chances parce que arriver tôt dans ce marché-là. Oui, absolument. Alors merci à monsieur Couture pour cette entrevue. Nous on prend encore deux petites minutes puis on vous revient avec nos essais routiers de la semaine.
Vous écoutez Balado du samedi, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est déjà le dernier bloc de l'émission. Alain Mécona, tu m'as dit qu'on allait faire un retour en arrière.
Oui.
Au début de l'émission, on allait essayer un Cadillac Escalade, le nouveau.
Oui. En famille.
Alors, ben comme si on était dans une familiale dans notre jeunesse, finalement.
Exactement. Parce que tu en as parlé au début des fêtes, puis là, je l'ai essayé la semaine dernière, puis je me disais, bon, comment je peux trouver un autre homme? Puis c'est arrivé tout seul, parce que il a fallu que je me déplace avec les enfants. Sur une longue distance, fait que c'était comme excellent pour l'essayer dans ce contexte-là.
Oui, ça peut pas être mieux.
Puis là, tu sais, je me souviens d'une époque, parce qu'on se dit, une escalade, une familiale, franchement, mais à une autre époque, là, ça fait quand même 20-25 ans, là, des gens, tu sais, à cette époque-là, une voiture neuve, c'était en bas de 20 000 $ pour la plupart du temps.
Oui, absolument.
Et à ce moment-là, il y a des gens qui n'hésitaient pas une seconde à aller acheter une Chrysler Town & Country, comme on disait dans le temps, équipée au bouchon, là. Avec tous les groupes optionnels imaginables. Hein. Exactement. Oui. Et ça, c'était facilement 60 000 $ de, tu sais, et plus, là.
En tout cas, tu n'étais pas loin de 50, puis tu pouvais monter encore un peu. Là.
Avec quelques options. En tout cas, j'avais au moins un client quand j'étais pompiste qui c'est une longue histoire. Je ne vais pas embarquer dans le détail, mais ça coûtait cher, son affaire. Et si on transpose ça en dollars d'aujourd'hui, ça revient au prix d'un Cadillac Escalade moyennement équipé qui tourne autour de 100 000 $. C'est un autre genre de budget. Là.
On est dans le 6 chiffres. Là.
On reste dans le luxe quand même, comprenons-le bien. Mais là... arrive le Cadillac Escalade, tout nouveau, tout beau, tout fraîchement, qui ressemble d'ailleurs à une espèce de vaisseau spatial, tellement il est carré et imposant de l'extérieur. Tu sais, il y a pratiquement pas de pare-choc. Là. C'est une calandre.
L'intérieur m'a encore plus surpris que l'extérieur.
Mais c'est l'intérieur qui est fun, définitivement.
L'intérieur, c'est quelque chose.
On sent que pour une fois, Cadillac fait un peu plus que... c'est juste rajouter 2-3 appliques de bois pour se distinguer du Yukon et du Suburban dans ce créneau-là, qui sont les véhicules équivalents chez GMC et Chevrolet. Et ça commence avec le tableau de bord. C'est quand on en prend en place à l'avant, qui est assez particulier. Écoute, c'est un écran, on parle tout le temps de ces affaires-là, c'est un écran OLED de 38 pouces de diagonale qui occupe de la porte du conducteur jusqu'à l'autre bord de la console.
C'est une belle astuce parce que c'est comme trois écrans mais qui se fondent un dans l'autre.
C'est ça, qui a à peu près la même apparence puis qui permet il y a quand même des affichages à des endroits qu'on soupçonnerait pas. Évidemment, CarPlay, Android Auto sans fil sont inclus, ce qui fait que c'est un véhicule quand même assez moderne du point de vue du conducteur. Ah oui, puis en parlant du conducteur, l'Escalade propose aussi l'option de la conduite presque autonome Super Cruise.
Oui.
Que les gens chez General Motors n'arrêtent pas de nous rappeler qu'il a été préféré à l'autopilote de Tesla par des essayeurs du Consumer Reports aux États-Unis.
Oui.
Donc, semble-t-il qu'il est meilleur. Moi, j'ai des doutes là-dessus.
Moi, en fait, j'en aime pas un. Je vais être bien honnête.
Non, il y a ça aussi.
Moi, quand je suis pas en contrôle, là, ça me rend très nerveux.
Dans certains véhicules, notamment chez Tesla, le modèle Y, on voit sur la console centrale ce que l'appareil, ce que les appareils de captation, dans le fond, les capteurs de la voiture voient aussi. Puis on est mis en confiance par ça. Dans le véhicule que j'avais en essai, il n'y avait pas le Super Cruise encore, mais il y avait un détecteur de ligne au sol, tu sais, qui permet d'avertir le conducteur quand on est en train de quitter la voie sans mettre un clignotant. Et généralement, quand il y avait une fissure dans le milieu de la voie, il pensait que c'était une ligne. Donc, il nous tassait à peu près à cheval sur la ligne pointillée. Donc, je peux pas imaginer un système de conduite autonome qui se base là-dessus pour prendre le contrôle du véhicule. Donc ça, j'étais un petit peu inquiet côté technologique par rapport à ça. Évidemment, l'autre truc qui a déçu, c'est que sous le capot, le V8 de 6,2 litres, qui peut remorquer 8000 livres et bravo pour ça, consomme pas mal. Là. 15 litres et demi au 100 à vide,
oui.
C'est beaucoup.
En fait, c'est un gros moteur, c'est un gros véhicule et
tout
on
est
paye.
Très gros, exactement.
Oui, effectivement.
Ça me fait rire parce que j'ai jumelé une boîte automatique à 10 rapports. Qui est extrêmement douce et qui fait penser à ta technologie préférée. On dirait quasiment une CVT tellement que le changement de rapport s'est fait de
façon
transparente.
Mais il y a des vrais changements de rapport, lui.
Mais
ce qui n'est pas le cas qu'une CVT.
Mais, techniquement, une CVT, c'est une boîte à 10 rapports qui aurait aussi 100 autres rapports au bout. Donc, on s'en va dans ce sens-là. Bref. C'est un véhicule très doux, définitivement, très spacieux aussi. Il y avait des téléviseurs à l'arrière. Parce que tu sais, souvent, quand on prend un véhicule comme celui-là et qu'on a des passagers derrière, l'idée, c'est de les divertir aussi. Puis là, dans ce cas-ci, il y avait OnStar avec la connexion avec le Wi-Fi embarqué.
Ouais.
Et les téléviseurs, deux téléviseurs sur les appuis-têtes à l'arrière pour la banquette du milieu. Et mes enfants, qui sont quand même pas nuls en termes de techno, étaient pas capables de les commander.
OK, donc je suis pas le seul.
Donc c'est quand même un petit
peu...
OK,
parce que moi, moi qui est pas bon là-dedans,
ouais.
Je me suis assis à l'arrière.
Contrôler une télé,
bon,
ça devrait pas être sorcier, mais celle-là, elle l'est.
Ah non, au bout de 10 minutes, je suis débarqué de l'auto, j'ai dit bon. J'ai pas compris.
C'est un problème parce que tu veux que ce soit simple à utiliser. Tu veux pas que les enfants ils fialent parce qu'ils ont une télé puis ils savent pas comment l'utiliser.
Exact.
Ce qui est pire que pas avoir de télé du tout, en fait. Parce que ça crée un autre genre de problème puis c'est pas le fun pour personne. Mais bon, ils ont quand même ça. Puis un truc qui est arrivé pendant que je laissais avec les enfants que j'ai trouvé vraiment décevant, c'est que et pour essayer des véhicules familiaux régulièrement, c'est la première fois que ça arrive. Ils ont eu la nausée, ils avaient des sensations de nausée.
OK, le mal de la route.
Donc, c'est un véhicule tu sais, qui est très VUS, qui a un certain passé de camion, qui a une suspension pourtant qui a été entièrement revue et qui est plus
qui est beaucoup plus douce et souple aujourd'hui là, que la génération précédente,
mais
c'est clair.
J'ai l'impression qu'on est tellement enveloppé dans cet habitacle-là à l'arrière que ça crée une espèce d'effet un peu comme les gens qui ont le mal de mer, par exemple, vont peut-être plus sensibles à ce genre de situation-là. Donc ça, j'ai été un petit peu déçu. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un véhicule qui se veut.
À la fin de la journée, t'en achètes-tu ou t'en achètes pas un?
Ben, j'aurais aimé voir, parce qu'on va le pouvoir laisser plus tard cette année, comment est-ce qu'on porte le V6 turbo diesel là-dedans? Parce qu'il y a une turbo diesel qui s'en
vient. Oui, exact.
Ça pourrait faire une belle différence en termes de consommation et peut-être de comportement général. Mais rendu là, tu dis, ben, un diesel en 2021, c'est aussi bien d'aller regarder du côté des hybrides branchables, parce qu'il y en a aussi dans ce créneau-là, Volvo.
Parce que
en fait,
tu vas avoir une consommation qui va être aussi bonne, sinon meilleure,
ben,
mais tu pollues pas.
Puis, dans mon cas, j'ai une famille, mais je ne remorque pas. Donc, j'ai pas besoin du 8000 livres. Donc, c'est vraiment un cas où, puis on s'entend, ces véhicules-là sont achetés souvent en ville aussi, donc c'est un autre genre de problème. Donc, moi, personnellement, non. Je préférerais regarder vers la technologie qui est en vogue, donc les hybrides branchables, plutôt que les technologies encore thermiques. J'ai vraiment trouvé que c'est une belle amélioration pour ce véhicule-là par rapport aux Escalades de génération précédente. Et si vous regardez ces gros VUS-là, puis vous vous demandez, un Suburban, un Yukon, une Escalade, c'est sûr que l'Escalade, il se démarque. Il n'y a aucun doute.
Ah oui, à tous les points de vue, là. On a vraiment, dans cette génération-là, mis l'Escalade sur un piédestal par rapport aux autres.
Et je pense que ça regarde bien pour les produits Cadillac qui s'en viennent, électriques ou pas, là.
On a mis beaucoup de sous, beaucoup d'efforts depuis très longtemps, là. Le Arts and Science, ça a commencé en 2000 au Salon de l'Auto à Détroit, là. Ça fait 20 ans
ça fait
et plus,
que ça a plein,
là. Puis on commence à récolter les fruits qu'on a semés, là, il y a déjà très longtemps et on a continué de mettre de l'argent de façon importante du côté de Cadillac. Fait que oui, on leur souhaite que ça fonctionne à un moment donné.
Ouais.
Puis c'est drôle parce que mon essai va un peu dans le même sens. Je suis chez un nouveau joueur, moi aussi, ben, cette
semaine.
C'est
un gros VUS, là aussi, là, encore une fois.
C'est un assez gros VUS. Bon, ceux qui connaissent pas Genesis, Genesis, c'est la branche de luxe de Hyundai. On a décidé chez Hyundai, finalement, de faire le saut, comme on le fait chez Honda avec Acura, comme on le fait avec Toyota, puis Lexus et Infiniti chez, bon,
C'est comme le troisième essai, un peu, pour cette marque-là.
C'était, en fait, on a longtemps hésité. Le nom Genesis existait pour le G80, qui était un produit Hyundai. Sauf que les gens, on avait fait des études indépendantes du côté de chez Hyundai. Moi, c'est un ingénieur qui m'avait conté ça. Il avait pris une G80 avec tous les logos Genesis, là. Tous les logos Hyundai, c'est-à-dire à l'époque, c'était un Hyundai.
De la marque Hyundai, ouais.
Et on avait fait un focus group et on avait demandé aux gens, si vous auriez un prix à mettre sur ce véhicule-là, vous mettriez combien?
Pour l'acheter, là.
Pour l'acheter, là. Ouais. Vous l'achetez, là, selon vous, ça vaut combien? Et avec tous les logos Hyundai, personne n'allait plus haut que 50 000. 50, on allait à 51. Puis, sans logo, tout le monde était à 70 000 au-dessus. Et c'était exactement la même voiture. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a un problème d'image. On a fait quoi? Ben, pendant quelques années, ceux qui suivent le marché auront remarqué que la G80 chez Hyundai, il n'y avait pas de logo Hyundai. C'était impossible de trouver le nom Hyundai sur ce véhicule-là. On marquait G80, Genesis, G80,
c'est ça. Ouais.
Et on a pris la décision de dire, OK, on va maintenant faire une division de luxe. On a commencé, évidemment, avec la G80, parce que le modèle existait déjà. On a amené la G70, qui est un dérivé du Stinger qu'on avait amené chez Kia. On a retransformé l'Equus, on a fait la G90. Et là, premier utilitaire, le GV80. Parce que toutes les dénominations GV vont être des utilitaires.
Est-ce qu'ils font déduire que c'est un spin-off d'un produit Hyundai déjà existant?
Pas celui-là.
Ah, donc ça, c'est comme un peu une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, en quelque part. Et c'est un produit qui est entièrement conçu et construit sous la bannière Genesis. Donc, c'est pas un produit emprunté. On vise des modèles comme le Q7 du côté de Audi, le X5 du côté de... c'est ça en termes de format, le GLE chez Mercedes ou même un Lincoln Aviator. Là, on n'est pas loin de là. Ça a l'air de quoi? Moi, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai essayé un 4 cylindres. T'as un 4 cylindres turbo, un 6 cylindres turbo, puis je me suis dit, dans ce format-là, un 4 cylindres turbo, il va me manquer de sauce. Et non, et non. On en a, non seulement on en a assez, mais le côté du plus léger du 4 cylindres, l'avant du véhicule est moins lourd. Il y a un côté plus agile, plus agréable à rouler dans ce modèle-là que j'ai trouvé fort intéressant. Bon, la consommation, on n'est pas à 8, là, on n'est pas à 7, là, parce qu'on a 2 tonnes. Là, on peut pas faire de miracle. Puis on a quand même une puissance qui est plus qu'agréable. Là, on a quand même 300 chevaux, 311 livres-pieds de couple dans le moteur 4 cylindres 2.5 turbo. Donc, l'économie, là, vous allez faire du 11, 11.5, ce qui est quand même très correct, considérant le format. Et c'est un véhicule, comme tous les produits coréens, qui en offre beaucoup. Beaucoup de luxe, le cuir, technologie. Honnêtement, je me suis pas ennuyé d'un véhicule allemand dans ça. Le roulement est très doux. Évidemment, le prix est autour du... En fait, le modèle essayé, là, le plus équipé, c'est 85 000, mais ça part à 70 000. Mais si on regarde ce qu'on a entre les mains, c'est entre 10 et 12 000 $ de moins qu'un produit équivalent.
Ça vaut la peine de l'essayer.
Et ça vaut la peine de l'essayer.
Livre chez vous pour l'essayer en plus.
Ben justement, puis c'est un produit qui, si on ne court pas nécessairement après le prestige d'une marque reconnue, vous allez avoir tout ce que vous avez de besoin. Moi, j'ai que des bons mots à dire. Mon essai a été très concluant. 4 roues motrices très efficaces. Donc, je pense que c'est intéressant. Ah, vous entendez la musique. On a fini pour cette semaine. Alain, on se revoit, nous, la semaine prochaine. Je vais avoir un essai, un autre Genesis. Je parlais de la G80. Oui. C'est ce que je roule cette semaine. On va en parler un peu la semaine prochaine. Et on a en entrevue le président de Volkswagen Canada, Pierre Boutin. Salut bien!
Salut! Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode vers midi, tous les jeudis. Après la pause, Patrick Lagacé en accéléré, le résumé de la semaine.
Oh,